VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Eric Manila, qui est en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique. Il est 18h30, temps universel. Et vous suivez la deuxième édition du Monde aujourd'hui. D'abord, les titres. Au Burkina Faso, l'identification des restes de l'ancien président Thomas Sankara est loin d'être effective. Les résultats des analyses ADN réalisées sur sa dépouille supposée n'ont rien donné. Attentat terroriste au Mali, 4 assaillants tués et 5 suspects arrêtés. Au Nigeria, série d'attentats de Boko Haram perpétrés dans un camp de déplacés près de Maïdougouri, au Bénin. Les travailleurs du port autonome de Cotonou en grève et refusent la nouvelle autorité.
D'abord, le gouvernement a trahi le peuple.
Nous retrouverons Ginette Adandé pour les détails. Au moins 62 morts au Portugal à la suite des feux de forêt. Vos rendez-vous pour les sports et l'actualité économique, c'est tout de suite après le journal. Je vous le disais dans les titres, au Burkina Faso, les résultats des analyses ADN réalisées sur la dépouille supposée de Thomas Sankara n'ont pu confirmer que ce soit bien l'ancien président Bagassikoura, adjoint à un des avocats de la famille, Maître Prosper Farama.
Les experts n'ont pas pu, au regard des éléments qui étaient à leur disposition, simplement établir des résultats positifs. Ils n'ont pas pu, si vous voulez, travailler pour tirer des conclusions qui puissent être indiscutables. Là, ça laisse subsister, en tout cas en ce qui concerne l'identification de la tombe, évidemment que ça laisse possibilité de doute, non seulement pour Thomas Sankara, mais pour tout, pour l'ensemble des personnes qui ont été enterrées avec lui. Rien aujourd'hui ne permet de confirmer qu'effectivement, les noms qui ont été mis chez chacune de ces tombes étaient avérés. Le doute, comme vous le dites, persiste aujourd'hui. En tout cas, en ce qui concerne l'identification des restes et des tombes. Maintenant, est-ce que ça a une incidence sur la suite du procès? À mon avis, non. Parce que ce qui nous importe en tant qu'avocat, c'est de constater et de tirer la conséquence que Thomas Sankara et ses compagnons ont bel et bien été assassinés, ce qui n'est discuté aujourd'hui par personne. Et maintenant, c'est d'aller vers un procès pour établir la responsabilité des personnes qui ont été mises en cause dans cette affaire.
Maître Prosper Farama à Ouagadougou. En une semaine, une dizaine de soldats ont péri dans 3 attaques terroristes au Mali entre Assongo, Bitangougou et Bamako. Hier, une attaque a visé des étrangers près de Bamako. 4 civils et un militaire y ont perdu leur vie. Selon le ministre malien de la Sécurité, Salif Traoré, 4 assaillants ont également été tués. Dans le nord du pays, des assaillants ont été mis en déroute par les militaires dans la localité de Bamba, située à quelques 200 km de Gao. Les populations sont sorties massivement pour applaudir les soldats maliens. De Gao, la correspondance est signée Boubacar Touré.
C'est aux alentours de 5h du matin, heure locale, que le poste militaire de la localité de Bamba a subi une attaque d'hommes armés venus à bord de 3-4-4. Les assaillants ont laissé leur véhicule derrière la colline située au côté ouest du village pour entrer à pied en ville. Les militaires maliens qui veillaient au grain ont riposté énergiquement, mettant cette fois-ci en déroute les assaillants. Le bilan provisoire fait état de 1 mort et 1 blessé capturé du côté des assaillants, et 1 mort parmi les soldats maliens. Les populations très heureuses sont sorties ce matin pour saluer la bravoure des militaires maliens. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Dans le nord-est du Nigeria, des attentats suicides coordonnés ont fait au moins 16 morts dans un cas de déplacés, en camp de déplacés près de Maïdougouri, la capitale de l'état du Borno. Les détails de Ekia Badou.
Deux femmes ont déclenché leur ceinture explosive dans le village de Kofa, qui abrite le plus grand camp de déplacés. Deux autres explosions ont eu lieu de manière presque simultanée dans le camp, ne faisant cette fois aucune autre victime à part les femmes kamikazes. Les blessés, dont on ignore le nombre exact, ont été transportés d'urgence à l'hôpital de Maïdougouri. Le camp d'Alori abrite des dizaines de milliers de personnes qui ont fui leur foyer à la suite des violences entre armée nigériane et Boko Haram. En janvier 2016, 85 personnes ont été tuées dans ce même camp, dans un raid mené par les djihadistes. Les violences ont baissé, mais les attentats suicides et les raids continuent dans toute la région, particulièrement dans l'état du Borno, berceau du groupe Boko Haram. Les islamistes nigérians ciblent de plus en plus les camps de déplacés, les mosquées et les universités.
Ekia Badou. que président béninois Patrice Talon a annoncé aujourd'hui en Conseil des ministres avoir subi deux opérations chirurgicales à la prostate et à l'appareil digestif lors de son récent séjour à Paris. Il est rentré dimanche soir après presque un mois d'absence. Monsieur Talon rassure qu'il est totalement rétabli et exerce pleinement ses prérogatives constitutionnelles. 8 étudiants interpellés la semaine dernière à la suite de manifestations sur le campus de l'Université de Lomé pour exiger de meilleures conditions d'éducation sont toujours en détention. Certains parents des étudiants interpellés, interrogés par l'AFP, ont confirmé leur détention et des responsables de la police ont reconnu avoir interpellé ces étudiants, mais n'ont pas voulu préciser de nombre. Des affrontements avaient opposé des étudiants à la police vendredi et mercredi sur le campus de Lomé à la suite d'un rassemblement de la Ligue togolaise des droits des étudiants. Un accord de paix qui prévoit un cessez-le-feu immédiat a été signé aujourd'hui à Rome sous l'égide de la communauté catholique de San Egidio entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés. Les parties se sont engagées notamment à un cessez-le-feu immédiat sur tout le territoire national sous le contrôle de la communauté internationale.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un jeune musulman a été tué ce week-end dans la banlieue de Washington, D.C. Il était porté disparu après avoir quitté une mosquée de la région de Sterling, en Virginie. La police dit ne pas enquêter sur un crime de haine. Le point avec Morgan Guiriec.
4 ou 5 adolescents se sont retrouvés confrontés à un automobiliste alors qu'il venait de quitter un restaurant dimanche à l'heure du petit déjeuner. D'après le Washington Post, citant la police et des responsables de la mosquée, la plupart d'entre eux ont pris la fuite pour se réfugier dans la mosquée, sauf une, identifiée comme Nabra Hassanen, 17 ans, qui a été portée disparue. Une recherche pour la localiser a alors été lancée, puis la dépouille d'une jeune fille a été retrouvée dimanche dans un étang. La police locale a repéré un automobiliste qui conduisait de façon étrange dans la région. Et Darwin Martinez Torres, un homme de 22 ans, a ainsi été arrêté. Il est accusé de meurtre. La police n'a pas expliqué pourquoi la piste du crime de haine a été écartée.
Morgan Guiriec. La Grande-Bretagne est de nouveau sous le choc après un nouvel attentat tôt aujourd'hui. Un homme au volant d'une camionnette a foncé sur des fidèles musulmans près de la mosquée de Finsbourg. Parc Claire Morin-Gibourg pour les détails.
Devant ses bureaux au 10 Downing Street à Londres, la première ministre Theresa May a promis de combattre le terrorisme sous toutes ses formes. L'attaque a aussi été dénoncée par le maire de Londres, Sadiq Khan, et par plusieurs organisations musulmanes qui ont dénoncé un acte islamophobe tout en appelant au calme. L'attentat s'est produit dans un quartier populaire du nord de Londres. Des habitants sont venus rendre hommage aux victimes tout au long de la journée, déposant des fleurs et des pancartes pour dire « On ne nous divisera pas » ou « Nous sommes une seule communauté ». Ici, aux États-Unis, Ivanka Trump, fille et conseillère du président Donald Trump, a exprimé sur Twitter sa solidarité avec les victimes. Par contre, le président américain n'a pas encore réagi.
Claire Morin-Gibourg. Plus de 2000 pompiers sont mobilisés au Portugal, dont la moitié dans le centre pour maîtriser un gigantesque incendie qui a coûté la vie à au moins 62 personnes et blessé des dizaines d'autres. Nathalie Barge.
Le feu s'est déclaré samedi à Pedro Gao Grande. La fumée a cloué au sol pendant des heures les avions anti-incendie envoyés par la France, l'Italie et l'Espagne, qui a mis à disposition 100 militaires et 25 pompiers. L'ensemble du pays est frappé par une centaine d'incendies qui ont mobilisé 2000 pompiers et 700 véhicules. La presse a publié de nombreuses photos de voitures calcinées dans lesquelles ont péri une grande partie des victimes piégées par les flammes. Les télévisions passent en boucle des images aériennes d'une route nationale recouverte de cendres. Certaines victimes sont mortes dans leur maison qu'elles n'avaient pas abandonnée à temps, a souligné le Premier ministre Antonio Costa. Le Portugal a connu ce week-end une forte canicule avec des températures dépassant 40 degrés dans plusieurs régions.
Et la Cour suprême des États-Unis a jugé aujourd'hui qu'il n'était pas possible d'interdire aux délinquants sexuels d'utiliser les réseaux sociaux. Dans une décision prise à l'unanimité, la Haute Cour a jugé illégale une loi très répressive de la Caroline du Nord qui interdit aux personnes ayant un casier judiciaire d'utiliser Facebook ou Twitter. La Louisiane et 12 autres États américains avaient apporté leur appui à la Caroline du Nord en affirmant qu'il était prioritaire d'empêcher les prédateurs sexuels de collecter des informations sur d'éventuelles victimes. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. Votre rendez-vous pour l'actualité économique, la chronique de la Muniteco signée Jacques Aristide.
La Banque centrale ougandaise a de nouveau réduit son taux d'intérêt de 11 à 10% ce lundi grâce à la stabilisation du shilling ougandais vis-à-vis des principales devises et à une diminution de l'inflation ces derniers mois. Selon le gouverneur de la banque, Emmanuel Mutebile, l'économie du pays a progressé de 3,9% 2016-2017, en baisse toutefois par rapport aux 4,7% durant la période précédente à cause de la sécheresse et de la lenteur des investissements dans les projets publics. La mine d'or de Cook en Afrique du Sud restera fermée jusqu'à jeudi au moins, le temps des procédures d'appel entamées par les 1500 miniers que la compagnie propriétaire Sibanye a licenciés la semaine dernière pour avoir participé à une grève spontanée en soutien à des travailleurs illégaux. La perte en termes de production s'élève à 15 kg d'or par jour. Des observateurs craignent le déclenchement d'une crise sociale. Une semaine pour initier un demi-million de jeunes au numérique à travers toute l'Afrique, objectif de la troisième édition d'Africa Code Week, lancée aujourd'hui à Flic-en-Flac à Maurice. Africa Code Week a pour but de former la jeunesse africaine au langage informatique avec une attention particulière portée cette année sur la formation des filles.
Et sans transition, nous passons au sport. Ce soir, c'est Yacouba Ouédraogo. Bonsoir, Yacouba.
Bonsoir, Eric.
Football d'abord, la Coupe des Confédérations 2017. L'Allemagne réussit son entrée dans la compétition, n'est-ce pas?
Victoire 3-2 devant l'Australie. Les buteurs allemands sur la pelouse de Sochi s'appellent Stindl, Drexler et Goretzka. Rogis et Juric avaient réduit le score pour les Australiens. On rappelle qu'hier, le Cameroun s'est incliné 2-0 face au Chili. Prochain match, mercredi, Russie, Portugal et Mexique, Nouvelle-Zélande.
Et retour en Afrique avec la Ligue des Champions.
Deuxième journée de la phase de poule, trois matchs demain. L'AS Vita Club au bord de l'élimination accueille Saint-Georges au Stade des Martyrs à Kinshasa. Dans le groupe C, le choc à Casablanca entre le Wydad et Al Ahly d'Égypte. Dans le groupe D, à Khartoum, El Merreikh espère se reprendre en accueillant le Ferroviaro de Beira dans le groupe A.
Et en Coupe CAF aussi, les choses sérieuses reprennent, n'est-ce pas?
Effectivement, sept matchs au programme, dont Oroya de Guinée qui reçoit le CF Mounana du Gabon, TP Mazembe en déplacement chez Supersport d'Afrique du Sud dans le groupe D.
Nouveau scandale à la FIFA, de quoi s'agit-il?
Et la justice interne de la FIFA, dont les responsables ont été récemment remplacés, a enquêté avant cela sur le rôle de Gianni Infantino dans l'élection du président de la Confédération africaine de football. Avant que son mandat arrive à son terme en mai dernier, le magistrat suisse Cornel Borbelli, président de la chambre d'instruction de la commission d'éthique, avait ouvert une enquête sur de possibles agissements de M. Infantino en faveur de l'élection du malgache Ahmad Ahmad en mars à la présidence de la Confédération africaine de football. Selon le quotidien britannique The Guardian, M. Infantino aurait promis à plusieurs présidents de fédérations africaines d'accélérer le versement d'aide à leur fédération en échange de leur soutien à M. Ahmad.
Et enfin, le cyclisme, la cinquième étape du Tour de la RDC, reportée à demain.
Oui, l'étape du jour qui devait se courir entre Massi Manimba et Kenge est renvoyée à demain. En cause, l'arrivée tardive de la délégation à Massi Manimba, dans la province du Kwilu en provenance de Lubumbashi. Le Belge James Brandon reste maillot jaune.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manila-Kidza, pour passer à la seconde partie de cette édition. La première destination, le Mali. L'insécurité au Mali est devenue plus que chronique. Chaque jour fait son lot de victimes. Des soldats, des civils, des terroristes. En une semaine, une dizaine de soldats maliens ont péri dans trois attaques terroristes entre Sossogo, Bitangungu et Bamako. Malgré cette situation d'insécurité, le gouvernement malien veut organiser un scrutin référendaire sur l'ensemble du territoire. Cela en se basant sur un avis de la Cour constitutionnelle qui évoque une insécurité résiduelle. Kassim Traoré.
La situation sécuritaire demeure une préoccupation pour les Maliens. L'insécurité gagne du terrain de jour en jour. Malgré cette situation, le gouvernement veut organiser le référendum le 9 juillet prochain. Mamadou Diawara, fonctionnaire.
Le référendum là est nul et non avenu. Les Maliens ne vont plus considérer ça parce qu'on est tombé dans une situation dont les conséquences se font encore sentir. Comme l'a si bien dit, le peuple malien est un peuple mis. Il n'a de leçons à recevoir des personnes. Il sait où va et comment y aller. Un gouvernement qui n'a pas d'espoir est un pays qui est parti en dérive. Parce qu'Ibeka, vraiment, il ne donne pas quoi. Il ne peut pas servir le Mali comme ça. Le Mali est tombé en chaos. Dans deux ans seulement, le Mali ne peut pas s'en sortir encore. Il faut qu'on trouve une solution à ces problèmes-là très rapidement.
Dans Songo à Bamako, en passant par Hombori et Bitangungu, les soldats maliens sont la cible des attaques terroristes. Une dizaine d'entre eux sont morts, dont un dans l'attaque du campement Kangaba à Bamako. David Dambélé, webmaster.
C'est des attaques qui ne me surprennent guère. Vous voyez que du nord, ça s'est déplacé tantôt à Bamako, après ça a remonté au centre et maintenant ça redescend à Bamako. Et je pense que c'est vraiment une situation qui interpelle vivement les autorités à rester sur les qui-vive. La Cour constitutionnelle, elle fait une analyse complètement à côté de la plaque. Sur le terrain, on ne peut pas tenir des propos comme ça. L'insécurité, elle est une réalité au Mali.
La priorité des autorité doit être la sécurité des personnes et de leurs biens partout au Mali. C'est ce que pense Boukari Daou, directeur de publication du journal Les Républicains.
De janvier à maintenant, il y a eu beaucoup d'attaques, il y a eu beaucoup de victimes, environ 500 victimes. On n'est pas sûr aussi que ça va s'arrêter de sitôt. Donc moi, je pense que nos autorités doivent savoir choisir maintenant les priorités pour que les Maliens soient plus sécurisés et abandonner vraiment les projets superfétatoire. Tout ce qui n'est pas l'essentiel, qui n'est pas la garantie de la sécurité des Maliens, abandonner ça pour vraiment se consacrer à la tâche pour laquelle ces autorités sont là.
Pour aider les forces de sécurité, il faut la collaboration des populations. C'est ce que préconise Ansman Maïga, Malien vivant aux États-Unis de passage à Bamako.
Il faudra que les populations collaborent. Il faudra que nous fassions notre introspection. Sans notre collaboration, ça ne peut pas marcher.
Le Mali est dans l'insécurité. Alors que cela fait 18 mois que l'état d'urgence est en vigueur dans le pays. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Bénin, les travailleurs du port autonome de Cotonou sont en grève. Ils refusent l'avenue d'un nouveau mandataire pour gérer la structure. Les travailleurs de la plateforme portuaire fustigent cette nouvelle gestion qui est supposée insuffler un nouveau dynamisme au port autonome de Cotonou, considéré comme le poumon de l'économie béninoise. Sur place, le reportage est signé Ginette Adandé.
Seul temps pour le gouvernement de Patrice Talon qui essuie bien de remontrances de la part des partenaires sociaux qui voient de mauvais oeil la procédure de mise en œuvre de certaines réformes dont celles liées à la gestion de certaines sociétés d'État. En effet, les travailleurs du port autonome de Cotonou emboîtent le pas à ceux du CNHU et s'insurgent contre la privatisation du port autonome de Cotonou. Pour Urbain Philippe Canlissou, ce n'est pas en soi la réforme qui gêne, mais plutôt la manière utilisée et qui tend à faire croire à un flou bien orchestré.
D'abord, le gouvernement a trahi le peuple. Ce qui était dit lors des campagnes, c'est que pour les sociétés d'État, ils vont lancer un appel à candidature pour recruter les directeurs généraux avec bel et bien un cahier de charges. Le cahier de charges permettra au gouvernement d'évaluer à tout moment pour voir si l'objectif fixé au départ peut être atteint. Mais dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont laissé de côté tout ce qu'ils ont dit et ils sont lancés dans la privatisation.
Cette grève d'avec qui sera reconduite a été fortement suivie par les travailleurs qui refusent de subir les mêmes affres que les employés des sociétés qui ont déjà fait les frais d'une mise en concession à procédure malhonnête. Même les travailleurs du ministère des Transports se sont associés à la cause de leurs collègues du port autonome de Cotonou. Athanase Oussou est le secrétaire général du syndicat du ministère.
Dans les jours à venir, si nous n'avons pas satisfaction à ce point, eh bien l'action va s'étendre. Toutes les structures sous tutelle du ministère des Infrastructures et des Transports se mettront ensemble.
Le ministre des Transports se dit insensible à cette grève qui ne respecte aucune norme. Il a d'ailleurs relevé de ses fonctions un directeur d'une des cellules du port autonome de Cotonou qui est allé en grève comme ses collègues.
La grève n'est pas une solution. Il doit venir au travail parce que la grève n'apportera rien comme solution. Nous sommes dans un environnement concurrentiel et nous avons besoin, nous avons même l'obligation d'être performants.
Les travailleurs de l'aéroport affiliés au ministère des Transports menacent une grève boule de neige qui embrasera tous les secteurs du dit ministère. Pour Richard Dalméda, secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'aéroport, il faut barrer la voie à ce gouvernement qui veut tout vendre dans un pays dont l'économie est asphyxiée.
Est-ce que c'est en vendant toutes nos propriétés que l'économie va se porter bien ou bien en préservant le peu que nous avons?
Il faut dire que la crise sociale est de plus en plus inévitable. Cherté de la vie, chômage, un véritable mélange pour une explosion sociale qui ne peut être évitée que si le gouvernement ramène la balle à terre en communiquant sur les motivations qui sous-tendent ses actions. De Cotonou, Ginette Le Adani pour VOA Afrique.
Ça représente...
Nous nous excusons de ce petit incident technique. C'était donc le reportage de Ginette Adandé. Ouverture aujourd'hui à Paris du premier procès dans l'affaire dite des biens mal acquis. Après 10 ans de procédure, ce premier procès concerne le fils du président équato-guinéen. Théodore Obiang est soupçonné par la justice française d'avoir détourné plus de 300 millions d'euros, une somme qu'il aurait logée à l'étranger. D'autres dirigeants africains sont également visés. Pour réaction, Abdulrahman Dia a joint à Paris Benjamin Tungamani, le président de la plateforme contre la corruption et l'impunité au Congo-Brazzaville.
Ça représente un espoir par rapport à un problème qui dure comme depuis 10 ans. Et puis nous pensons que, à l'exemple de ce qui se passe pour la Guinée équatoriale, il y a suffisamment d'éléments pour qu'une plainte contre M. Sassou Nguesso puisse avoir théoriquement un résultat. Nous sommes un peu étonnés qu'au niveau de la France, on n'aille pas un peu plus vite que ça.
Qu'est-ce qui se passe pour le cas particulier de la plainte contre le président Sassou Nguesso?
Nous cherchons des preuves qui sont des preuves en fait qu'on ne veut pas trouver. Vous savez très bien que le problème financier est un problème opaque. Il y a des réseaux très opaques pour pouvoir débusquer ce genre de problème. Donc nous pensons qu'il y a suffisamment d'éléments, notamment autour de la famille de Sassou Nguesso, qui a un enrichissement qu'on ne peut pas expliquer, qui fait que théoriquement, on aurait dû déjà passer à la fin de l'instruction, commencer déjà un procès. Nous n'accusons pas les politiques français, mais nous disons que quelque part, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ce que le gouvernement français accélère en fait cette procédure.
C'est une procédure qui peut être compliquée, notamment par le manque de collaboration des prévenus. Est-ce que cela vous donne quand même espoir pour votre cas particulier du Congo-Brazzaville?
Oui, ça donne espoir. Mais avant tout, comme je vous ai expliqué, le tout ne dépend pas seulement des preuves que nous avons. Le tout dépend de la volonté, effectivement, des pays qui s'occupent de l'instruction, de pouvoir aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'il est difficile, à partir du moment où les gens sont à Brazzaville, de pouvoir opérer ici une instruction qui soit rapide et conséquente. Mais nous, nous pensons qu'avec le peu qu'ils ont, ils auraient pu arriver à ce point-là. Nous sommes très, très optimistes en disant que, de toute façon, le temps politique n'est pas le même que le temps judiciaire. C'est vrai que nous sommes impatients, mais nous nous disons que ce problème finira par être réglé. Réglé surtout lorsque M. Sassou Nguesso sera plus au pouvoir.
D'accord. Donc pour vous, c'est une affaire politique et judiciaire.
Quel est l'intérêt immédiat pour qu'un pays comme la France, même les États-Unis, aille dans ce sens-là? À moins que les rapports avec M. Sassou Nguesso essayent une fois pour toutes de pouvoir mettre ce dictateur à côté. Mais vous savez très bien que la politique, elle ne se fait pas avec des bonnes intentions, elle se fait également avec des intérêts.
Benjamin Tongamani, le président de la plateforme contre la corruption et l'impunité à Paris.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Et dans la page humanitaire, pour terminer, 84% de réfugiés se trouvent dans les pays en voie de développement ou à revenu moyen. Le Tchad est le pays qui accueille plus de réfugiés par rapport à sa population, quatrième au monde après le Liban, la Syrie et la Jordanie. Solange Nyamulisa a joint la chef de bureau du HCR à Bagassola pour un état de lieu par rapport aux réfugiés de la région du lac Tchad. C'est Lydie Navig.
Pour la région du lac Tchad, nous accueillons essentiellement les réfugiés venus du Nigeria qui ont fui la crise Boko Haram. Mais le Tchad a d'autres réfugiés d'autres nationalités. Aujourd'hui, on a environ 8000 réfugiés au niveau du lac Tchad qui ont fui les exactions menées par la secte Boko Haram. Mais on a beaucoup plus de personnes qui se sont déplacées à l'intérieur même du Tchad. Il y en a environ 100 000 actuellement.
Quels sont les défis que rencontrent ces réfugiés?
Il y a de nombreux défis. Il y a des défis du point de vue de la sécurité, des défis du point de vue de la protection et des défis du point de vue socio-économique. En ce qui concerne la sécurité, avec les activités persistantes des éléments Boko Haram, la communauté humanitaire a du mal à se déplacer vers ces personnes-là, ça c'est un. Et deuxièmement, ces personnes-là sont obligées de fuir, de laisser tout tomber, de recommencer une nouvelle vie ailleurs. Ils ne sont pas dans les endroits qu'ils connaissaient avant. Ils sont coupés de tous leurs moyens de subsistance. L'autre volet de sécurité aussi, l'État a beaucoup militarisé la zone ici pour lutter contre les Boko Haram. On assiste à beaucoup de violations des droits de l'homme de la part des hommes en armes. Pour ce qui concerne les réfugiés particulièrement, le fait qu'il y ait beaucoup de militaires au niveau de Bagassola ici, on assiste souvent à des incursions de ces hommes en armes là dans le camp des réfugiés. Donc il y a ce premier défi-là qui est un peu le maintien du caractère civil de la ville. On insiste aussi à des défis en matière de protection parce que ces personnes-là vivent ici entre elles. Il y a beaucoup de problèmes parfois, surtout les problèmes de culture, notamment la question des violations basées sur le genre. Vous savez, c'est des peuples qui ont pris pour habitude de marier les enfants à partir de 13 ans, 14 ans, alors qu'il y a une loi nationale ici qui interdit ces mariages-là. Mais la persistance de la culture fait qu'on assiste quand même à toujours ces mariages. On essaie de lutter. Et aussi à tout ce qui est la question des violences domestiques. Un autre problème aussi, il y a un grand déficit en matière d'éducation et en matière de structure étatique même. Et donc, une des grandes conséquences de cela, c'est qu'on assiste à des personnes qui n'ont aucune documentation, ni extrait de naissance, ni carte d'identité. À l'autre défi en matière socio-économique, il n'y a pas beaucoup de perspectives qui leur permettent d'avoir des activités qui leur permettent d'être autonomes parce que la terre n'est pas très fertile ici. Le peu de terre fertile qui est là, les populations autochtones ne sont pas très favorables à ce que ces personnes aient accès à ça. Avec les mesures de l'état d'urgence, l'accès au lac est très 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 limité alors que la majorité sont des pêcheurs, donc ils n'ont pas accès à l'eau. Et aussi avec la fermeture des frontières, le commerce avec le Nigeria, est très réduit. Donc il n'y a pas beaucoup de perspectives pour que ces personnes soient autonomisées.
Lydie Navig, chef de bureau du HCR à Bagassola.
Salut les amis, ici Roger Mondou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Mondou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Vunamira Gahima, à la console de Rob McLean, à la présentation, Eric Mandilakidza, ainsi va le monde aujourd'hui. On reste connecté sur Facebook et sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. À bientôt.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.